France Inter, franceinter.com.
Cette guerre a donné lieu à de terribles choses, mais aussi à de belles idées. Le mal a été vaincu et le monde a pris conscience de la majesté du droit. Woodrow Wilson, président des États-Unis, 1919. D'histoire. Le mal a été vaincu et le monde a pris conscience de la majesté du droit. En disant cela à la conférence de la paix qui s'ouvrait à Paris le 14 février 1919, Woodrow Wilson n'était pas le seul à comprendre qu'après la Grande Guerre, une ère nouvelle allait commencer. Jamais, en tout cas, dans l'histoire du monde, il n'a autant changé, aussi vite et aussi durablement, qu'au lendemain de ces 4 ans de guerre, dont 90 ans après, on continue de vivre les conséquences. Pour le meilleur, comme l'espérait naïvement le président des États-Unis, ou pour le pire, comme la suite allait le démontrer, avec le fascisme, le nazisme et une autre guerre mondiale, plus meurtrière encore, mais qui n'était jamais que le prolongement de la première. Et comment comprendre aujourd'hui encore les conflits qui ensanglantent l'Europe et le Proche-Orient, en Palestine, dans l'ex-Yougoslavie ou en Irak, si on oublie que les frontières de ces pays ont été dessinées après la Grande Guerre. C'est avec elles qu'a véritablement commencé le XXe siècle, comme le rappelait le général de Gaulle en 1968, le jour du 50e anniversaire du 11 novembre 1918.
Un demi-siècle s'est écoulé sans que le drame de la Grande Guerre se soit effacé de l'âme, ni du corps des nations, et tout d'abord de la nôtre. Rien ne fut plus après, comme il en était avant. En somme, les immenses événements politiques, économiques, sociaux, qui depuis ont encore bouleversé le monde, sont les conséquences directes de la colossale révolution frayée alors par les armes et où la race humaine en vint à perdre l'équilibre qu'elle n'a pas jusqu'ici retrouvé.
Et le général de Gaulle disait cela il y a 40 ans, en 1968, avant d'autres déséquilibres et d'autres conflits qui sont encore aujourd'hui les conséquences de la Grande Guerre. Jean-Jacques Becker et Bruno Cabanne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux des historiens spécialistes de la Grande Guerre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que 90 ans après, alors que les derniers poilus sont morts, il en reste quelques-uns aux États-Unis et au Royaume-Uni, est-ce qu'elle est encore d'actualité? Est-ce que ces conséquences se font encore sentir dans le monde aujourd'hui, Bruno Cabanne?
De plus en plus présente, en fait. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Ce discours de 1968 a lieu à un moment où finalement, les anciens combattants sont encore là. Moi, il me rappelle un texte que de Gaulle publie en novembre 1918, alors qu'il est encore prisonnier de guerre.
En Lituanie, oui.
Oui, et où il anticipe justement cette victoire, et où il parle des larmes, où il parle des veuves, et où il dit que la paix ne sera qu'une couverture qu'on jettera sur les haines inassouvies. Finalement, voilà, il le redit en 1968, et c'est vrai, la guerre est encore présente, très présente. Alors, heureusement, la haine s'est peu à peu dissipée, mais nous sommes encore les héritiers de cette violence de guerre. Vous rappeliez l'Irak, on pourrait aussi penser aux Balkans, naturellement, dans les années 90. Ces conflits sont très largement, du point de vue des exactions contre les civils, de la violence des champs de bataille, des héritiers de la Première Guerre mondiale.
Mais ils en sont nés, hein, l'Irak, la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie,
absolument,
sont nés en
absolument
des traités qui ont suivi la guerre. Jean-Jacques Becker, sur l'actualité encore de cette guerre.
Oui, quand la Grande Guerre a commencé, on était encore au XIXe siècle. Quand la guerre s'est terminée, 4 ans plus tard, on était au XXe siècle. Et en fait, tout notre siècle Et très largement, qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience, très largement sorti de la guerre. Et puis, il y a un fait considérable. Dans l'histoire de ce pays, dans l'histoire monumentale de ce pays, il y a deux moments. La construction des cathédrales au Moyen-Âge et la construction, l'édification des monuments aux morts à la suite de la guerre, de la Grande Guerre. Et c'est la présence permanente, j'allais dire pour toujours, mais il n'y a pas de toujours dans la vie humaine, des monuments aux morts de la guerre et de ces listes interminables de noms. C'est une forme de la permanence de la Grande Guerre de notre vie.
Au sang d'honneur 1914-1918. Abrassard Jules, Ancelin Jules, Coubertin André, Aubry Maurice, Annuel Raymond.
Si vous mettez les morts de 14 les uns à côté des autres, vous rangez, allongez côte à côte tous les morts de la guerre de 14-18. Un mort, un mort, un mort. Rien que pour les morts français, il faut 700 kilomètres. La collectivité a contracté par rapport à ce million et demi de morts une dette tellement importante qu'on ne pourra jamais la réparer. Elle reste, c'est une sorte de dette qui est inextinguible. C'est quelque chose qui est inoubliable et qui ne doit pas être oublié. C'est ça que le monument aux morts dit.
Je crois que jamais aucun discours, aucun chiffre n'est aussi parlant que ce que vient de dire Antoine Prou. En fait, il le disait en 1996 dans une émission de France Culture, comparer les victimes de la guerre, le charnier qui a été 14 à un cimetière de 700 km de long, et cela rien que pour la France. En fait, il faut aussi comprendre que c'est la première fois, c'est peut-être là, Jean-Jacques Becker, qu'on est au XXe siècle, dans un nouveau type de guerre, on n'a jamais vu cela, on le verra pendant la deuxième, mais on n'avait jamais vu cela, autant de morts en 4 ans.
Oui,
9 millions au total, hein, sur l'ensemble des fronts.
9 millions et peut-être plus. À l'heure actuelle, on aurait plutôt tendance à dire près de 10 millions de morts. Alors, évidemment, ces chiffres sont un peu incertains, parce que pour la Russie, à quel moment les morts sont ceux de la Grande Guerre, ceux de la guerre civile. Il y a les morts de la grippe espagnole, alors qui se comptent par dizaines de millions. Mais,
qui s'est déclenché à la fin de la guerre, oui, qui était terrible. Oui.
Et il y en a un certain nombre qui sont tout de même dus à la guerre. Hein, même si l'ensemble de l'épidémie n'est pas due à la guerre, eh bien, le fait de la promiscuité dans les armées a entraîné plus de morts. Alors, je crois qu'un des grands traits de ce que fut la Grande Guerre, c'est justement la mort de masse, comme on n'avait jamais vu jusqu'alors.
Les chiffres dont je dispose, c'est environ, vous le dites, effectivement, 10 millions, 2 millions en Allemagne, 1 600 000 en Russie, 1 200 000 en Autriche-Hongrie, 750 000 en Grande-Bretagne, et compte tenu de l'entrée en guerre tardive des États-Unis, à peu près 200 000 morts donc américains. Mais c'est vrai que pour ce qui concerne la France, c'est toute une génération qui a été touchée. Je crois, Bruno Cabanne, que jamais une génération n'a été autant sacrifiée que la génération qui a fait la guerre de 14-18.
Oui, Antoine Prou évoquait tout à l'heure la dette contractée à leur égard. Effectivement, cette dette, je pense... aucun pays européen n'en s'en est complètement remis. Ça a été vraiment un traumatisme considérable. Je voudrais juste rajouter à ce qu'a dit Jean-Jacques Becker le poids aussi des disparus, qui était naturellement un élément très important, à peu près. Bon, c'est naturellement très difficile à évaluer, mais sans doute 600 000 disparus pour la seule armée française. C'est absolument considérable. Ce qui signifie naturellement, concrètement, que pour beaucoup de familles, on a vécu pendant des mois et des mois dans l'attente de nouvelles, et puis dans l'espoir, bien sûr, d'abord que la personne revienne, mais très vite, tout simplement, de faire revenir le corps. Et pour beaucoup de familles, il a fallu se résigner et faire son deuil sans les corps. C'est, on le sait très bien maintenant, très, très difficile.
Parce que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu deux fois moins de victimes en France. Et alors là, il s'agit de morts différents, puisque c'était pratiquement des hommes, puisque ce n'était pratiquement que des militaires en 14-18. Mmh. Et là, compte tenu du fait que les populations civiles ont été touchées, je ne parle pas bien sûr aussi de la déportation, mais le nombre des morts français, en tout cas, était deux fois inférieur. Il faut évoquer aussi, puisque nous parlons des conséquences de la guerre, celle-ci est une conséquence immédiate, les conséquences lointaines sur le plan démographique. La France a été littéralement saignée, Jean-Jacques Becker.
Oui, bien entendu, et pendant très longtemps, c'était un exercice scolaire habituel d'établir des pyramides des âges. Et à intervalles réguliers, on voyait une grande encoche dans cette pyramide des âges, et cette grande encoche, c'était celle des morts, d'une part des morts de la Grande Guerre, et puis aussi des enfants qui n'étaient pas nés pendant la Grande Guerre. Et au fond, il n'y a pas très longtemps que cette encoche n'existe plus. Alors, c'était particulièrement grave pour la France, bien sûr, parce que la France était un pays de faible natalité. Ajoutée à la faible natalité traditionnelle, l'énormité de ces 1,4 million morts, on comprend que démographiquement, la France n'était plus en état, en quelque sorte, de tenir son rang dans l'Europe de cette époque. Alors, c'était vrai peut-être aussi pour d'autres pays, mais moins. Parce que, si on prend l'exemple de l'Allemagne, 2 millions de morts, plus qu'en France, mais moins en proportion de la population allemande. Et comme c'était encore à l'époque une population qui avait un dynamisme interne qui se développait, les choses ont été moins graves. Alors, pour la France, c'est horrible.
S'il y a un traumatisme, c'est évidemment à cause du nombre des morts. Mais c'est aussi, ça suppose, un très grand nombre de veuves, 700 000 veuves, un très grand nombre de blessés, pour ce qui concerne la France, 3 millions de blessés, dont 1 million d'invalides. On écoute justement l'épouse de l'un d'entre eux, Madame Le Dan, en 1985.
Mon mari est parti très jeune. Il n'avait pas 19 ans. Je ne sais pas où il a été blessé. Grand mutilé, il avait coupé le bras, coupé ici. Mais c'était le bras droit, alors. C'était un capitaine qui nous mariait. Il mariait toutes les jeunes filles du coin parce qu'il y avait tellement eu de tués et de blessés. Hein, il avait dit, il faut que toutes les jeunes filles se marient. Il y en a qui ne voulaient pas se marier avec des grands mutilés. Il faut vous marier, il faut que la France ait des enfants. Enfin, on s'est toutes mariées, on a toutes eu des enfants. Hein.
Vous ne le connaissiez pas avant la guerre, votre mari ?
Mon mari, non. Il fallait prendre ce qu'il y avait. On ne pouvait pas choisir. On les a pris comme ils étaient. Il y en avait qui n'avaient qu'une jambe, il y en avait qui n'avaient qu'un bras, il y en avait qui n'avaient pas de jambe. Je l'ai bien soigné. Je ne regrette rien. On aurait eu un qui aurait eu ses deux bras, ça n'aurait pas été si bien.
J'étais blessée, je souhaite que tu guérisses pour la leur tête, au fin du dernier coup. Que tu frappes avec ta cicatrice, le jour de gloire, où tu reviendras chez nous. L'enfant des ondes avec toute la carne, ça nous mettra le cœur anti-rebouchant. La vie s'alarme, ce jour-là y aura du vent. Qu'elle quitte mon colon, n'en fais pas, mon petit gars, n'en fais pas. Tu la reverras, Paname, Paname, Paname. Et plus tard,
tu le reverras à Paname et plus tard au Moutard en racontant tes exploits, tu leur diras c'est un peu grâce à moi qu'on est chez soi à Paname. Je le dis parce que c'est une très vieille chanson, d'où le son qui était mauvais, mais une chanson de 1918, hein, Suzanne Valroger qui évoquait les blessés, je cite encore ce que j'ai chanté au début, si t'es blessé, je te souhaite que tu guérisses pour l'honneur d'être aussi du dernier coup, ce que tu seras battre avec ta cicatrice. Ça aussi, c'était un traumatisme considérable, le nombre considérable des blessés, des invalides, Bruno Cabanne. Et oui. En pensant au pire d'entre eux, si je puis dire, c'est-à-dire ce qu'on appelait les gueules cassées.
Oui, il faut le rapporter à une forme de visibilité de la Grande Guerre dans les années 20, dans les années 30. Bien sûr, les monuments morts, bien sûr, les cérémonies, les veuves en très grand nombre, mais aussi, même s'ils sont 10 ou 15 000, ces gueules cassées, mais beaucoup de mutilés présents et qu'on voit un peu partout dans l'espace public. D'autant plus que la plupart d'entre eux, à partir de 1923, bénéficient d'emplois réservés. Donc ils se trouvent dans les lycées, ils se trouvent dans des emplois administratifs, et ils sont partout. Et cette visibilité de la Grande Guerre joue beaucoup, je crois, pour prolonger le traumatisme des années 14-18.
Et l'ensemble aussi de ceux qui ont survécu, des blessés plus légers, mais tous ces anciens combattants. Quand on dit anciens combattants, aujourd'hui, on pense à des gens très âgés, comme ces derniers anciens combattants qu'on voyait. Et ils avaient 20 ans, ils sortaient de la guerre, 20, 25, 30 ans, très nombreux aussi, et qui ont pesé très lourd dans la politique de leur pays, pas seulement la France, mais en France, par exemple, eh bien, ils étaient d'un poids, on ne pouvait pas les négliger. Ils ont pesé très lourd dans les choix politiques de la France de l'entre-deux-guerres.
Oui, parce qu'ils ont réussi à diffuser progressivement un message pacifiste qui d'ailleurs, s'est étendu à l'ensemble du champ politique dans les années 20, dans les années 30. Hein, le discours spécifiquement de gauche, progressivement, le pacifisme est devenu un des discours dominants, naturellement, de l'entre-deux-guerres.
Presque tous les anciens combattants, il y a des gens qui n'étaient plus de droite et même qui ont versé ensuite dans la collaboration. Je pense à Pierre Drieu-La Rochelle, je pense à Louis-Ferdinand Céline, qui étaient sur les champs de bataille et qui eux-mêmes étaient pacifistes, partisans, bien entendu, de Munich.
Ou des écrivains plus âgés, je pense à Barrès, par exemple, dans Le génie du Rhin, qui doit dater de 1921. Après tous ces discours sur la guerre et sur l'Union sacrée, il développe un discours tout à fait pacifiste sur la réconciliation entre Français et Allemands.
Jean-Jacques Becker ?
Oui, dans le même ordre d'idée. Monterland, qui apparaît justement comme un peu le successeur de Barrès, qui représentait théoriquement l'opinion de droite, l'opinion même nationaliste, eh bien, s'élève contre ceux qui trouvent que la guerre est une belle chose. Il a des paroles très, très dures. Je crois que c'est dans Le génie du Rhin, autour de 1925. On est très surpris d'avoir son langage. Et en réalité, toute la France est saisie, dans les années 20 et 30, effectivement, est saisie progressivement par le pacifisme.
Alors la France peut-être, mais peut-être moins l'Allemagne, où certains considèrent que leur pays a été trahi. C'est la fameuse légende du coup de poignard dans le dos. L'armistice aurait été dû à la trahison des élites politiques de l'époque. Et ces gens, donc, sont animés d'un sentiment de revanche après la signature du traité de paix signé à Versailles le 28 juin 1919. Écoutez deux témoins de cette signature, un Français, M. Claire Guyot, et un militaire de l'état-major allemand, Kurt von Lessner.
Clémenceau a signé le dernier, après que, naturellement, les Allemands avaient signé. Il y a eu certainement une gêne dans l'assistance de voir l'air déconfit, l'air déçu, l'air navré de ces deux Allemands, n'est-ce pas, qui venaient signer, enregistrer cette défaite formidable de leur pays.
In Versailles, da saß uns ein Mann gegenüber, der alte Clemenceau.
À Versailles, il y avait un homme en face de nous, le vieux Clemenceau. Jamais je n'oublierai ce jour terrible de Versailles, où notre destin politique, notre misère morale et notre pire déchéance commencèrent. La dernière raison de la conclusion malheureuse de la guerre, cela ne fut pas la défaillance de l'armée allemande et du peuple allemand, mais l'absence d'un homme d'État exceptionnel. Aucun peuple ne peut longtemps résister s'il n'a pas à sa tête un vrai guide.
Alors ça, c'est un témoin allemand de la signature du traité de Versailles. C'est assez impressionnant, même si Führer veut simplement dire guide. On sent se profiler quand même l'appel au chef qui donnera le nazisme, Bruno Cabanne. C'est une conséquence de la guerre.
Bien sûr. Le traité de Versailles en soi, maintenant on le sait, notamment beaucoup de jeunes historiens américains ont travaillé sur ces questions-là et nous ont bien montré que l'Allemagne notamment était en mesure de payer, à la différence de ce qu'on a prétendu pendant très longtemps. Ce qui a le plus frappé les Allemands, je pense, c'est vraisemblablement l'article 231 du traité qui faisait de l'Allemagne le responsable moral du début de la guerre. Et pour beaucoup d'Allemands, il fallait à ce moment-là non seulement supporter 2 millions le poids des 2 millions de morts, mais accepter en plus que ces 2 millions de morts soient morts pour rien, parce qu'ils étaient responsables, considérés comme responsables de la Première Guerre mondiale.
Je rappelle brièvement les principales dispositions du traité de Versailles. 2 milliards de marques or à verser donc aux vainqueurs. La reconnaissance par l'Allemagne, elle a été bien obligée de l'admettre, mais elle n'a pas participé aux négociations, de sa responsabilité, 9000 km de son territoire perdu, l'occupation également de toute la rive gauche du Rhin, une armée réduite à 100 000 hommes. C'est un sentiment quand même d'humiliation qu'éprouvent les Allemands au lendemain de ce traité de Versailles, Jean-Jacques Becker.
Plus que de l'humiliation, de l'indignation. On n'a pas su en France à l'époque, et on ne s'est probablement pas rendu compte depuis, que je dirais qu'il n'était probablement pas possible que le traité de Versailles soit autrement qu'il n'a été. Mais, cela étant, il a provoqué en Allemagne une indignation, des foules immenses se sont rassemblées pour protester, non pas contre l'ensemble du traité de Versailles, ils admettaient, ils n'admettaient pas d'avoir été vaincus, mais puisqu'ils l'étaient malgré tout, ils admettaient beaucoup d'aspects du traité de Versailles, mais pas, comme le disait Bruno Cabanne à l'instant, ils n'admettaient pas qu'il soit en plus considéré comme responsable de tout. Et cette indignation a été une des conséquences de cette indignation a été effectivement la montée du nazisme.
Alors ça a été aussi le fascisme. Alors l'Italie était l'alliée des alliés, mais elle a été frustrée également par les traités parce qu'on ne lui a pas accordé tous les territoires qu'elle espérait obtenir de sa victoire sur l'Autriche-Hongrie et qui elle était alliée d'Allemagne. Il y a un rôle, il y a quelque chose de très important. Ce traité de Versailles quand même, il est animé par un personnage très important. C'est la première fois d'ailleurs qu'un président des États-Unis est important. C'est Wilson, c'est un peu lui qui a fait un peu la pluie et le beau temps. C'est la guerre, c'est aussi un événement considérable. C'est l'émergence de la toute-puissance des États-Unis et l'affaiblissement de l'Europe, Bruno Cabanne.
Oui, oui, on a un peu oublié quel rôle avait eu Wilson, mais aussi quelle image il avait dans le monde entier. Les attentes ont été considérables. Un historien, Erez Manela, a publié un livre récemment sur même l'attente qu'avait créé le wilsonisme en Asie. En Chine, en Inde, en Égypte, on a des traductions effectivement des discours de Wilson et l'attente est considérable, notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui d'ailleurs n'est pas dans les 14 points explicitement, provoque des attentes considérables de l'ensemble du monde. Et l'accueil de Wilson quand il arrive en France est là aussi tout à fait enthousiaste. Donc naturellement, c'était un élément central, mais n'oublions pas néanmoins que la paix de Versailles reste une paix de compromis entre Clémenceau et le président américain.
Alors, on parle toujours très européocentriste de traité de Versailles, mais il y a eu aussi, concernant toujours l'Europe, des traités concernant l'Autriche et la Hongrie, avec l'Empire qui éclate, l'apparition de nouveaux États fragiles, comme la Tchécoslovaquie, qui sera à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a les traités de Sèvres avec l'ancien Empire ottoman qui éclate avec l'apparition de nouveaux États, la Syrie, l'Irak, le Liban, la Palestine, tout ça, enfin qui n'était pas un État, mais tout ça, évidemment, a eu des conséquences bien au-delà de l'Europe. Alors, évidemment, ça a créé beaucoup d'insatisfaction, mais dans les pays satisfaits, eh bien, on espère que la guerre est vraiment finie, on parle de « der des der », et on compte beaucoup sur une nouvelle organisation internationale qui est née du traité de Versailles, et dont l'ONU a pris un peu le modèle, la Société des Nations, dont la charte donc était inclue dans le traité de Versailles et devant laquelle à Genève s'exprimait en 1929 le français Aristide Briand.
Eh bien messieurs, si les nations réunies pour réduire les armements et pour appliquer l'article 8 du pacte, s'il y a à ce moment-là, écartant d'une main vigoureuse toute possibilité de crime, de guerre dans l'avenir, alors, mesdames et messieurs, ce jour-là, les peuples pourront s'illuminer.
La guerre est solennellement abolie entre tous les États. La guerre est morte. Le monde est rénové.
Marin de toutes les mers, tué par la guerre, je vous appelle. Aviateur de tous les ciels, tué par la guerre, je vous appelle. Artilleur, fantassin, cavalier de tous les pays, tué par la guerre, je vous appelle, mes 12 millions d'amis, tués par la guerre, vous sur qui les hommes, sourds et aveugles, marchent depuis 20 ans, levez-vous, tous, les vivants veulent recommencer la guerre, je vous appelle.
Et c'était un extrait du film « J'accuse » d'Albert Gans, Victor Francène, en 1937. Nous sommes à 2 ans d'une nouvelle guerre. Et Briand, dans cette Société des Nations, elle aussi est une conséquence de la guerre. Mais c'est un échec, Jean-Jacques Becker.
C'est un échec, mais ça n'a pas été un échec tout le temps. Et cela aurait pu réussir. Revenons au personnage d'Aristide Briand. Aristide Briand, en 1913, enfin en 1914, avant que la guerre n'éclate, était ce qu'on pourrait appeler un nationaliste de gauche. Eh bien, après la guerre, il devient le porte-parole littéralement de la paix dans le monde et il est accompagné par le ministre, par une des personnalités politiques les plus importantes d'Allemagne, Stresemann. On a pu croire à ce moment-là que la SDN, l'idée européenne, allait l'emporter. Mais il y a eu la crise de 1929, il y a eu l'arrivée au pouvoir du nazisme, et il a fallu attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour que ce qui se préparait à ce moment-là soit réalisé.
Mais est-ce que, justement, cette Deuxième Guerre mondiale... Il y a eu, c'est le rêve européen de Briand, hein, qui existait déjà et qui, lui aussi, évidemment, a volé en éclats avec la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que c'est une conséquence de la guerre ou est-ce que ce serait produite indépendamment de la Première Guerre mondiale ?
Il est très difficile de répondre à cette question. Parce qu'il est toujours très difficile de répondre avec des si. Mais je crois que ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale aurait pu avoir lieu après la Grande Guerre si un certain nombre de circonstances ne l'avaient empêché.
Bruno Cabal. Ce que je veux rappeler simplement, c'est qu'effectivement, le pacifisme diffus des années 20 et des années 30 joue un rôle très important, naturellement, au moment de Munich. C'est peut-être là-dessus aussi que se joue l'héritage de la Première Guerre mondiale. Cette impossibilité de consentir encore au sacrifice.
La peur du côté français, notamment, de refaire la guerre, et l'envie presque d'en découdre du côté allemand, quand même, pour prendre sa revanche.
Sur ce plan, il faut reconnaître que la seule fraction de la guerre qui a été populaire en Allemagne, c'est la guerre contre la France. Et cela, c'est un héritage, évidemment.
Et un héritage qui passionne encore aujourd'hui. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant une salle importante avec beaucoup de lycéens, de collégiens. On peut s'étonner quand même que si longtemps après, ça puisse intéresser de jeunes Français d'aujourd'hui.
De leurs arrière-grands-parents. Et je pense qu'effectivement, l'ombre portée par la Première Guerre mondiale sur l'Europe est encore très, très, très forte. Et nous sommes les héritiers de cette violence de guerre, comme je vous le disais tout à l'heure.
Jacques Becker, il nous reste quelques secondes.
Oui, absolument. Malgré tout, j'ajouterais que c'est un phénomène un peu mystérieux. Mm-hmm. Pourquoi cette remontée, littéralement, de l'intérêt pour la Grande Guerre.
Et pour combien de temps ?
Et pour combien de temps ? Mais peut-être pour longtemps, parce qu'au moins dans leur inconscient, les jeunes générations savent qu'elles sortent en quelque sorte de la Grande Guerre.
Bruno Cabanne, Jean-Jacques Becker, je vous remercie. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de vos livres, de Jean-Jacques Becker, le dictionnaire de la Grande Guerre, qui vient d'être publié chez André Versailles, et également l'encyclopédie de la Grande Guerre que vous avez dirigée aux côtés de Stéphane Audin-Rousseau et publiée chez Bayard en 2004. Et vous, Bruno Cabanne, vous avez dirigé aux côtés d'Anne Duménil le Larousse de la Première Guerre mondiale, ainsi que la Victoire endeuillée, la sortie de la guerre des soldats français, édité au Seuil. À lire également la revue L'Histoire de novembre 2008 avec un dossier spécial sur le 11 novembre 18 et deux textes, Le récit d'une journée qui a fait le siècle par Bruno Cabanne et En finir avec le 11 novembre par Jean-Jacques Becker. Vous pouvez retrouver sur notre site France Inter toutes ces références, franceinter.com, avec d'autres ouvrages, des quantités d'ouvrages sortis à l'occasion du 90e anniversaire de l'armistice. Vous retrouvez donc toutes ces références par téléphone au 32-30, 34 centièmes les minutes, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire en direct de Pessac et de son festival, que nous remercions chaleureusement à la technique Arthur Gerbeau et Laurent Lucas, documentation et archivina Clarisse Le Gardien, Franck Olivard et Hervé Evano. Une réalisation de Anne Kobilac. Et puis merci aussi à tous ceux qui sont venus assister à cette émission en direct du Festival du film d'Histoire de Pessac. Demain, dans notre émission, un tout autre sujet, Léonard de Vinci.